Avertissement. Dans cet épisode, on parle de relations abusives avec violence psychologique, d'agression sexuelle et d'intimidation. On fait aussi référence à du harcèlement sexuel et à une crise d'anxiété. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre Charlotte, qui nous parle des impacts de la discrimination qu'elle a vécue à l'université en lien avec un handicap, et aussi de la négligence dont certains établissements scolaires font preuve dans ce genre de situation. Dans la deuxième partie, on rencontre Myriam et Ludovic du Mouvement Jeunes et Santé mentale, avec qui on parle de la médicalisation des problèmes sociaux vécus par les jeunes. Bonne écoute!
Je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans, puis je viens parler d'une expérience de discrimination que j'ai vécue à l'université. Alors, j'ai été diagnostiquée avec une dépression psychotique majeure quand j'étais au cégep à cause d'une relation abusive, puis même à l'époque, ça a été difficile d'avoir des accommodements, me faire prendre au sérieux, mais ça finit par fonctionner et ça s'est poursuivi jusqu'à l'université. À l'université, dans le programme où j'étudiais, après un an et demi, on se divisait dans une certaine spécialisation, puis en une qui m'intéressait beaucoup, mais elle était contingentée. Okay. On avait une audition à faire pour se rendre là. Puis le professeur m'a tellement mis la pression. Pour vrai, il y a des gens qui n'osaient même pas auditionner pour ça, tellement ils ne voulaient pas vivre la pression malsaine d'auditionner pour ça.
OK, c'est comme reconnu que ce prof-là en particulier mettait bien, bien de la pression.
Oui, déjà à l'époque, okay. il y avait des accusations de harcèlement sexuel contre lui, mais il n'y avait rien fait à l'époque. Il avait vraiment une mauvaise réputation, mais rien s'était fait à ce moment-là. Alors, j'avais déjà peur d'auditionner pour lui. En plus, il y a eu plein de problèmes avec l'évaluation. Par exemple, il fallait faire un test à partir d'articles de journaux, mais il avait donné la mauvaise date à partir d'émissions, mais encore une fois, il avait donné la mauvaise date d'émission. Alors, tout était fait pour que je me plante à ce test-là.
Oh non!
Justement, pendant l'audition, j'ai parti à brailler, j'ai fait une crise d'anxiété. J'étais allée à l'hôpital, j'ai vu ma travailleuse sociale, puis j'ai eu un mot du médecin pour dire que je devais refaire l'audition. Puis l'école, à l'époque, disait « Ben oui, elle a un mot du médecin, elle mérite de refaire l'audition, comme si ça avait été un examen qu'elle avait échoué à cause de sa maladie mentale, elle méritait de le refaire. » Mais le professeur voulait rien savoir de ça, fait que j'y ai parlé de mes maladies mentales, puis il voulait encore rien savoir de ça. Puis là, je me suis dit « Ok, je vais rester dans le programme pour finir mon bac, mais je ne serai pas dans ma spécialisation. Je vais passer un an et demi à faire quelque chose qui ne me sert absolument à rien. » Et en plus, à manquer des opportunités dans le domaine parce que j'avais des offres de travail puis j'étudiais dans un domaine qui ne m'intéressait pas. Mm. Bref, j'ai dit que j'allais rester dans le programme, même si ça allait être difficile pour moi. Puis là, il m'a dit « Je ne veux pas quelqu'un qui souffre dans mon programme. La cohorte n'a pas enduré ça. » Fait que là, j'étais comme « cool ».
Là, on parle du même prof.
Oui, c'est toujours le même prof. Puis un prof que vraiment, tu as des cours avec lui 5 jours semaine, fait que c'est impossible d'éviter ce prof-là. Ouais. C'est impossible de demander un autre cours à la place. J'étais vraiment coincée avec cette personne-là.
Puis ça, il t'a fait ce commentaire-là comme en privé, devant les gens?
En marchant dans un corridor.
Ah, OK.
Fait que j'y avais écrit, je pense, par courriel ou par Messenger que je voulais rester, même si c'était difficile pour moi. Puis quand je l'ai recroisé dans un corridor, donc publiquement dans l'université, je pense qu'il y avait même une personne qui marchait avec lui. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de moi dans son programme puis que les autres n'avaient pas à m'endurer.
Comment ça t'a fait sentir à ce moment-là de te faire dire ça?
Et ça m'a fait sentir comme si j'étais vraiment pas valide. Je me sentais vraiment pas acceptée. Je sentais que j'avais pas de valeur. Puis un truc que j'ai pas aimé aussi, c'est que, par exemple, comme comédienne, si je fais une audition puis je manque mon coup, on va pas me forcer à faire la vaisselle à la place. Je veux juste auditionner sur d'autres projets puis réussir ailleurs.
Ouais,
Tandis que là, un seul échec me condamnait à passer un an et demi dans un programme que j'aimais pas avec un prof qui me discriminait.
On va faire une petite parenthèse ici pour parler de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, à l'article 15 de la Charte, ça dit qu'on a le droit à l'égalité. Okay, ça veut dire que toutes les personnes au Canada doivent être traitées avec le même respect, la même dignité et la même considération. Pour garantir cette égalité-là, la Charte permet de créer des lois ou des programmes pour aider les personnes ou les groupes défavorisés. Ça peut être, par exemple, de mettre en place des mesures d'accommodement ou des mesures adaptées pour les élèves en difficulté. comme faire ses examens dans un autre local avec plus de temps, d'avoir un horaire adapté, de recevoir des notes de cours à l'avance, etc. Par contre, il faut quand même mentionner que pour avoir accès à ces mesures-là, il faut généralement se présenter au service adapté du cégep ou de l'université avec une évaluation médicale. Aussi, le droit à l'égalité est censé nous protéger contre la discrimination. La discrimination, c'est quand on est privé d'un droit, d'un service ou de l'accès à un lieu en raison de certaines caractéristiques. Ça peut être, par exemple, notre revenu, notre identité ou notre expression de genre, l'état de santé physique et mentale aussi. Donc, par exemple, si un employeur refuse de vous engager à cause que vous êtes une personne trans, c'est de la discrimination et c'est illégal. Si un propriétaire refuse de vous louer un logement parce que vous êtes issu de l'immigration, c'est de la discrimination et c'est illégal. Si le personnel scolaire dit que vous avez moins votre place que les autres dans un programme à cause de votre santé mentale, ben encore une fois, c'est des propos discriminatoires et c'est illégal. Si vous pensez être victime de discrimination dans un établissement scolaire, vous pouvez en parler à votre association étudiante ou encore à un prof ou une prof là, en qui vous avez confiance, qui vous informera du processus de plainte. Vous pouvez aussi porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour en savoir plus sur la discrimination et le droit à l'égalité, je vous invite à consulter les références dans la description de l'épisode ou à appeler un groupe en défense de droits comme Action Autonomie.
Fait que j'ai décidé de quitter l'école à la place. J'ai porté plainte pour discrimination au service de harcèlement de mon école parce que je ne connaissais pas d'autres services qui pouvaient s'occuper de ça.
Okay.
Ils ont reconnu que c'était de la discrimination pour mon handicap, mais vu qu'ils m'avaient tout dit ça à voix haute, je ne pouvais rien faire pour ça. Le mieux que j'ai pu demander, c'est qu'il soit sensibilisé à la maladie mentale. Puis encore une fois, il s'est jamais excusé. Puis il paraît qu'il comprenait même pas ce que je lui reprochais pendant qu'on le sensibilisait.
Donc, l'école reconnaissait qu'il y avait effectivement eu une situation de discrimination, comme il donnait raison, dans le fond. Mais il disait, on peut pas faire grand-chose parce que ça a été fait verbalement.
Oui, en effet, le fait, par exemple, qu'il m'a pas laissé refaire l'audition alors que j'avais un maudit médecin, le fait qu'il m'a dit qu'il voulait pas de moi dans le programme puis que la cohorte avait pas m'endurer juste après que j'ai parlé de mes maladies mentales, il savait que c'était de la discrimination. Mais comment tu veux avoir des recours contre le professeur quand tout ça a été dit à voix haute puis que tu peux pas prouver ça, c'est ma parole contre la sienne, puis c'est difficile de s'opposer à un prof.
Oui, tout à fait. Il y a comme plus de notoriété, entre guillemets, comme plus de pouvoir, fait que... Le prof contre l'étudiante qui est plus jeune. Puis qu'en plus, il y a un diagnostic en santé mentale, c'est ça. C'est dans la société, malheureusement, on nous prend moins au sérieux.
Il était zéro conscient que de quoi j'y reprochais. Il était zéro conscient qu'il avait fait une erreur puis il n'a pas changé son comportement. Justement, des années plus tard, je me rends compte qu'il y a une pétition pour forcer sa démission. Au moins une centaine de finissants de l'école ont signé la pétition, puis il y a une vingtaine de témoignages de harcèlement sexuel contre lui, auxquels j'ai ajouté mon témoignage de discrimination. Puis là, moi, contre lui, ça valait rien, mais tous ces élèves-là, contre lui, ça valut quelque chose, puis il a finalement démissionné. Mais encore là, quand ils m'ont retracé des années plus tard, ils n'avaient même pas retenu ma plainte contre discrimination. Il n'y avait aucune trace que j'avais laissé une plainte, puis aucune idée c'était passé où. Il a fallu que je reporte plainte, puis c'est juste du fait qu'il y avait autant d'élèves contre lui qu'ils ont pu faire quelque chose.
OK. Donc, tu as reporté plainte pour les mêmes motifs, en fait, que la plainte que tu avais faite des années auparavant.
C'est ça? J'ai porté plainte pour la même chose, du fait que j'étais supportée par tous les élèves, puis il y avait beaucoup de personnes qui témoignaient contre lui. Là, ça avait une valeur, mais à l'époque que j'étais toute seule contre lui, puis en plus, j'étais folle, ça allait pas bien.
Est-ce qu'il y a eu des conséquences après l'avoir dénoncé à nouveau, en fait?
Bien là, en fait, il a vraiment été forcé à démissionner, puis en plus, c'est pas un renvoi, parce que je pense qu'il y a certains droits si on le renvoie, tandis que s'il est forcé à démissionner, c'est vraiment purement sa responsabilité. Donc, ça a fonctionné, mais malgré tout, j'ai pas pu finir mon baccalauréat parce que je m'étais déjà fait créditer un certificat à place. Fait que là, je suis sur le bord de finir mon bac par cumul de certificats en ligne. Mais même à ça, j'ai commencé mes études vers peut-être 18-19 ans à l'université. Puis là, je vais finir mes études à 26 ans. Là, il y a quand même eu un gros vide où j'étais juste plus capable d'aller à l'école. Puis qu'il a fallu que je retrouve des écoles où j'allais me sentir à l'aise parce que j'allais pas confronter des personnes en personne.
Fait que cette situation-là, on peut dire que ça a eu Des impacts sur ta confiance, peut-être, dans le système scolaire?
En fait, le système scolaire, du fait que je suis autiste, que j'ai de l'anxiété, que j'avais une dépression psychotique majeure, j'ai été intimidée toute ma vie. Primaire, secondaire, cégep, université, j'ai toujours eu des problèmes sociaux à l'école. Donc, c'est pas juste ce prof-là. En général, je suis pas capable de m'inclure dans le groupe, fait que je peux juste plus étudier en personne. Donc là, j'étudie à l'université en ligne. J'ai pas de problèmes sociaux avec les gens. Je vais finir mes études comme ça, mais non, ça me vraiment fait en sorte que j'ai pas pu finir mon baccalauréat pendant longtemps. Puis ça a vraiment été un vide dans mon CV de dire que j'ai pas pu finir mes études à cause de lui.
Tu parlais tantôt, je reviens sur un truc que tu avais dit. Tu as dit, avant d'arriver là, à l'université, que tu avais eu accès à certaines mesures. Est-ce que tu aimerais ça nous en dire plus à ce sujet-là?
Oui, dans le fond, quand j'étais au cégep, ça n'a pas nécessairement mieux été non plus. En fait, au début, mon premier médecin m'a zéro pris au sérieux. Il m'a donné un diagnostic qui était comme en bas de la dépression. Là, c'était pas tant une dépression que ça. Fait que même à ça, l'école ne m'a pas pris au sérieux et ne trouvait pas ça très important. Puis à force de brailler continuellement pendant mes cours, il y a une de mes profs qui m'a pris à part puis qui m'a dit « Moi, je suis en dépression puis je vois que tu es en dépression aussi. »
Oh tu boy, OK, confidence, là. Une prof qui dit ça, OK.
Puis elle m'a dit « Je suis sûre que tu es en dépression. » Puis j'ai expliqué que le médecin avait dit non, mais il dit « C'est pas un bon médecin, tu vas trouver un médecin qui va te croire puis tu vas exiger un diagnostic. » Puis justement, là, j'ai poussé les choses. Je vais voir un médecin à clinique sans rendez-vous qui me passe un autre médecin, qui me passe un autre médecin, un psychologue, une travailleuse sociale, une psychiatre, etc. C'est répéter la même histoire une dizaine de fois, toujours remettre le couteau dans le plat, répéter tout ce qui va mal, jusqu'à ce que je trouve une clinique finalement qui me suit. Puis finalement, j'avais pas moins qu'une dépression, j'avais une dépression psychotique majeure. Fait que il me semble que c'était le temps d'avoir un diagnostic.
Mm-hmm.
Là, l'école m'a un peu plus pris au sérieux, sauf que la personne avec qui j'avais une relation abusive est encore dans l'école, une école où on n'avait même pas 200 élèves, puis que c'était impossible de pas croiser cette personne-là dans le corridor. Par rapport à la relation abusive, l'école n'a absolument rien fait, même si j'ai porté plainte plusieurs fois.
Dans le fond, de ce que je comprends, c'est comme si c'était pas suffisant que toi, tu dises que ça allait pas puis que tu avais besoin de certaines mesures. Ça te prenait comme absolument un diagnostic pour avoir accès à certaines mesures, c'est ça?
Le diagnostic a fait en sorte que j'ai des mesures par rapport à l'école. Par exemple, que mes travaux ont été allégés, des trucs comme ça. Mais par rapport à cette personne-là qui avait une relation abusive avec moi... Puis après ça, il m'intimidait à l'école, il montait les gens contre moi, il arrêtait pas de parler contre moi, il faisait tout pour m'éviter.
Ça, dans le fond, t'as parlé de ces situations-là, puis c'est comme la direction a rien fait par rapport
à ça. J'ai porté plainte minimum 5 fois à la direction. Puis là, je braillais dans tous mes cours, puis les profs disaient « Mais sors du cours, c'est malaisant. » J'étais comme « Je peux pas sortir du cours, je veux juste finir mon diplôme le plus rapidement possible, puis crisser mon camp de là. » Tous les profs m'encourageaient à porter plainte à la direction, mais la direction a rien fait. Mais là, l'école a fait faillite, fait que karma.
Est-ce qu'il y aurait eu comme une autre instance à laquelle tu aurais pu t'adresser à ce moment-là, étant donné que la direction faisait rien, ou c'était comme, ils t'ont même pas donné cette option-là de dire, ben mettons, si t'es pas satisfaite avec la réponse qu'on te donne, tu peux t'adresser à, je sais pas, la commission des droits de la jeunesse. T'sais, ils t'ont pas donné comme d'autres ressources.
Ils m'ont donné aucune autre source. Okay. Puis même à ça, je me rappelle, quand je m'étais faite intimider, j'avais essayé d'en parler à la police parce qu'il paraît que l'intimidation est illégale, mais finalement, c'est illégal juste si on te frappe ou si on te menace de mort. Fait que je sais que la police peut rien faire. Ce que je considère comme étant une agression sexuelle, ils pouvaient pas faire grand-chose parce que c'est... même si tu te fais agresser dans une ruelle avec un couteau par 5 personnes, c'est difficile à prouver. Ouais. Imagine quand c'était dans le cadre d'une relation où j'ai techniquement dit oui, mais je suis en psychose, fait que mon oui valait rien. Il n'y avait aucune chance que je gagne. Puis la relation abusive que je vivais à l'époque était psychologique. Il ne m'a jamais frappé ni rien, mais c'est presque impossible à prouver, la violence psychologique.
Ouais. Tout comme la discrimination, quand c'est pas par écrit.
Tout le monde fait ça,
c'est ça. Toutes des choses, dans le fond, que tu as vécues, que c'est très, très, très difficile d'exercer des recours, en fait, là, pour défendre ses droits.
C'est ça, c'est toujours ma parole contre la parole de quelqu'un d'autre. Puis quand tu as une maladie mentale, ta parole a encore moins de valeur parce que j'ai de l'air d'une crise de folle. Fait que pourquoi on écouterait la crise de folle?
Oui, effectivement. En tout cas, nous, on t'écoute aujourd'hui, puis on te croit.
Puis comme j'ai dit, le karma a fait en sorte que l'école a fait faillite puis que le prof a été forcé de démissionner. Fait qu'il y a de la justice quelque part, mais ça prend du temps.
Ouais, on sait pas, elle vient d'où la justice, mais oui, des fois, il y a des affaires de même. Tu dis parfait, l'univers a fait quelque chose. Là. Dans ton parcours, justement, dans les différents services de santé mentale, Est-ce qu'il y a des personnes ou des approches qui t'ont aidé?
Au secondaire, ma meilleure amie, c'était l'intervenante en toxicomanie. Je prenais pas de drogue, je prenais à peine d'alcool, mais c'était ma meilleure amie. Elle me donnait son opinion, elle me disait quoi faire.
Mm-hmm.
Fait que moi, une intervenante dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui a une opinion, quelqu'un qui va me donner des conseils comme un ami. Puis je suis pas obligée d'écouter ses conseils, mais au moins juste du fait que je dis « Oh non, je suis pas d'accord avec toi », ça m'aide à réfléchir.
Okay.
Mais okay. Je veux quelqu'un qui va m'apporter des informations différentes, qui va me porter à réfléchir, puis qui vont pas me dire de respirer, puis paraphraser mes phrases, puis me confirmer que je suis fâchée.
Mm-hmm. On souhaite vraiment de trouver cette personne-là.
Mon coiffeur,
c'est vrai. On le salue.
Ça coûte moins cher qu'un psy, genre ça, avec des beaux cheveux, fait qu'un thérapeute coiffeur, c'est parfait. Un message que je voudrais dire aux gens, c'est que si quelqu'un ne prend pas au sérieux, exige d'être pris au sérieux. Même ma médecin de famille ne pensait pas que j'étais autiste. J'ai fait mes recherches, j'ai envoyé mes recherches scientifiques. J'ai dit, ben check ça. Justement, j'ai eu le diagnostic.
Puis, tu sais, toute cette recherche-là, malheureusement, c'est vrai que parfois, il faut la faire nous-mêmes parce que même si on a le droit d'avoir de l'information, de poser des questions, ben on nous répond pas, tu sais, ou on nous répond vaguement ou on nous donne pas toute la bonne information. Fait que c'est vrai que d'arriver préparé à un rendez-vous, d'avoir comme noté des questions à l'avance, d'avoir pris des notes sur comment je me sens, c'est quoi les difficultés que je vis au quotidien, puis j'ai fait des recherches, voici les différentes solutions possibles, tu sais. C'est vrai que ça peut faciliter la tâche, mais c'est plate que ce soit notre job, tu sais, de faire ça comme au complet.
Mais moi, j'aime ça que ce soit ma job, ben, ça me donne plus de contrôle, parce que, admettons... Et un moment donné, il y a un psychiatre qui m'a donné un diagnostic de TPL, de trouble de personnalité limite, borderline, alors que dans ma tête, ça ne me correspondait pas pantoute. Je l'ai appris justement la journée où je me suis fait hospitaliser. Le médecin de service, il lisait mon dossier, puis j'ai appris que j'étais TPL. Je suis comme, on ne m'a l'a jamais dit du tout.
Ah, fait qu'en plus, ça a été mis à ton dossier sans même t'en informer.
C'est ça, elle m'a même pas dit que j'étais TPL, puis j'ai appris que c'était okay. Sur mon dossier. Je suis comme, voyons donc que c'est ça. Finalement, la raison pour laquelle j'ai autant de misère avec mes relations, c'est parce que je suis autiste, pas parce que je suis TPL. Bref, mais j'ai quand même eu ce diagnostic-là sans m'en rendre compte, puis je m'identifiais pas à ça. Là. Moi, c'était vraiment plus l'autisme que je voulais. Là.
Quand tu as fait toi-même tes recherches puis que tu te reconnaissais plus dans le diagnostic d'autisme, comment t'es arrivée avec cette information-là? Comment tu l'as présentée puis comment ça a été reçu?
En fait, ma médecin m'a dit « Ah, tu peux pas apprendre à ne pas avoir l'air autiste, c'est vraiment impossible pour les autistes de faire ça. » Puis je suis comme « OK, j'étais allée faire mes recherches sur Google Scholar puis j'ai trouvé un beau petit article scientifique qui dit que les femmes, justement, ont beaucoup plus tendance à ne pas avoir de l'air autiste, à être diagnostiquées trop tard. Puis, par exemple, dès lorsqu'elle a été au primaire, secondaire, ils n'ont pas de diagnostic d'autisme, mais tout le monde remarque qu'il est différent puis sont traités différemment. Puis, ils apprennent à porter un masque, ils apprennent à jouer un rôle, ils apprennent à se créer un persona pour avoir de l'air normal. Fait que c'est comme si quelqu'un avait écrit ma biographie sans que je sois au courant. Puis, j'ai envoyé ça, puis elle dit « OK, t'as raison, peut-être que tu peux apprendre à ne pas avoir de l'air autiste. » À m'envoyer sur la liste du public pour les tests, mais le public, c'était beaucoup trop long. Fait que j'étais allée dans une clinique privée, puis ça n'a même pas pris un mois, puis j'ai eu mon diagnostic, puis eux, c'était très clair que j'étais autiste.
Okay.
Justement parce que c'était un endroit spécialisé en femmes autistes adultes qui ont vraiment pu voir mon cas à moi versus au public qui étudie plutôt des enfants autistes gars. Là.
Mm-hmm. Puis d'après toi, pourquoi est-ce que pour les femmes, c'est plus difficile d'avoir ce diagnostic-là? Que tu as des hypothèses là-dessus? Moi, je pose vraiment la question, moi, j'en ai aucune idée.
Si c'est une hypothèse, c'est peut-être du fait qu'on attend beaucoup plus de choses des femmes que des hommes. Des hommes, on va dire « boys will be boys » pour excuser tout leur comportement, tandis que les femmes, on leur force beaucoup plus à être polies, à être sages, à respecter les normes de la société. Fait que je pense que c'est vraiment du fait qu'on est traité différemment parce qu'on a été assigné femme à la naissance.
OK. Donc, on est socialisé d'une façon à... en fait, se comporter comme les normes nous disent de se comporter, ce qui fait en sorte que c'était plus facile, un peu comme tu disais tantôt, d'avoir l'espèce de masque pour pas que ça paraisse l'autisme.
C'est ça,
est-ce que j'ai
théorie,
bien compris?
C'est ma théorie. J'ai pas mes études scientifiques à l'appui là-dessus, mais c'est ma théorie personnelle parce que c'est un truc que je verrais beaucoup soutenir, cette théorie-là.
D'après toi, comment le système scolaire québécois pourrait être amélioré?
Un problème que j'ai vécu à la première école où j'ai été discriminée, c'est que c'était vraiment un cadre fixe, que je devais absolument suivre le programme à temps plein, toujours suivre ces cours-là précis à cette heure-là précise, puis il y avait juste une façon de faire les choses. Tandis que là, je suis beaucoup plus heureuse parce que j'étudie en ligne dans un programme. En plus, je fais un certificat pluridisciplinaire, je peux suivre tous les cours que je veux. Donc, je suis les cours que je veux, au rythme que je veux, le nombre de cours que je veux par session, j'étudie quand je veux. Fait que je trouve qu'il faut permettre beaucoup plus de liberté à l'école parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable d'avoir 5 cours à temps plein à l'école pendant 3 ans tout de suite après avoir sorti du cégep. Il faut permettre des programmes d'études qui donnent beaucoup de liberté pour pouvoir s'adapter à la vie de tous les gens parce que je pense que l'éducation, c'est un droit. Puis pour avoir accès à ce droit-là, il faut pouvoir accommoder les gens pour que ça aille dans toutes les sphères de leur vie, pour que ça puisse les accommoder, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait du travail, qu'il y ait des maladies mentales, qu'il y ait quoi que ce soit. Il faut pouvoir les accommoder avec la flexibilité.
Pour la deuxième partie de l'épisode, on va maintenant discuter avec Myriam et Ludovic du Mouvement Jeunes et Santé mentale. Qu'est-ce que les jeunes qui y participent veulent obtenir comme changement? C'est quoi leur revendication? Et si on se sent interpellé, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans le mouvement?
Bien, bonjour, moi c'est Myriam, je suis coordonnatrice du Mouvement Jeunes et Santé mentale depuis 1 an.
Mon nom, c'est Ludovic Fortin-Turmel. Je suis impliqué dans le mouvement Jeunes et Santé mentale comme militant depuis 2018.
Donc, le mouvement Jeunes et Santé mentale, c'est né en 2016. Il y avait eu une grande consultation qui avait été menée par 3 regroupements nationaux là, sur les enjeux de santé mentale auprès des jeunes. Et puis, ça l'a mené à un forum qui s'appelait « Pour un regard différent en santé mentale », où se sont retrouvés plein de jeunes et d'intervenants qui travaillent avec eux pour réfléchir sur la question. Pendant ce forum-là, les gens se sont tannés. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que tout le monde jasait puis tout le monde était vraiment d'accord que les enjeux qui vont être identifiés plus tard étaient un problème. Puis on se parlait. Moi, j'étais là avec des jeunes d'une auberge à ce moment-là.
OK, comme une auberge du cœur.
Oui, c'est okay. Ça, comme intervenante dans mon autre vie. Puis on était comme tous tannés de répéter les mêmes choses dans des forums, des tables de concertation, des groupes. On en parle, on est tous d'accord, ça fonctionne pas,
ça avance
mais il
pas.
Se passe rien. Ce qui a ressorti le plus, c'était le cri du cœur du groupe de passer à l'action, okay. D'arrêter de juste être consulté, en parler. Donc les mouvements, les regroupements nationaux qui étaient le regroupement des auberges du cœur, l'association des groupes de défense de droits en santé mentale et
le RAS.
Et oui, c'était l'ERASME. Et l'ERASME, qui est le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. C'était les 3 regroupements qui avaient lancé la consultation. Ils se sont dit, OK, bien, on va pas juste s'entendre, on va faire de quoi. Fait qu'avec quelques jeunes qui étaient intéressés à ce moment-là, ils ont parti un comité de pilotage pour réfléchir à comment opérationnaliser, mettre en mouvement cette indignation, envie de bouger là. Donc, le mouvement a été créé comme ça. Par la suite, il a été mis en action tranquillement. Ils ont défini un petit peu le mandat, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de la consultation, à partir du forum. Puis, ils ont fait une proposition de déclaration commune, de nom pour le mouvement, de slogan, tout ça. Et ça a été entériné, tout ça, en 2018, dans une rencontre nationale où on retrouvait des jeunes et des intervenants.
Entre autres, je suis arrivé comme militant, moi, par le biais de cette rencontre nationale-là en 2018. Là. C'est comme ça que j'ai commencé mon implication. Là. Moi, je dirais que ce qui a été l'impulsion de départ pour mon implication dans le mouvement, c'était vraiment un sentiment de colère, d'injustice, d'incompréhension. Là. De fil en aiguille, j'ai pu officialiser ma participation à la rencontre nationale où j'ai pu avoir un poste là, élu sur le comité de coordination.
Vous me parliez tantôt là que il y a comme une déclaration commune. Je pense que c'est comme ça que tu l'avais nommé, Myriam. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? C'est quoi que dans cette déclaration là? C'est quoi vos revendications?
Oui, ben avec plaisir. Dans le fond, une des raisons pourquoi on a une déclaration commune, c'est qu'en ce moment nous on n'est pas une organisation. On est un mouvement citoyen. On est resté un mouvement citoyen. Donc on a un mouvement citoyen particulier parce qu'on a un comité de coordination sur lequel il y a des représentants de regroupements nationaux et des militants jeunes, donc, et des alliés qui sont des militants aussi. Fait que dans le fond, le mouvement Jeunes et Santé mentale a choisi d'être un mouvement de lutte à la médicalisation. Très, très rapidement, là, la médicalisation, c'est le fait de traiter tous les enjeux sociaux et les difficultés, je vais dire psychologiques, de façon médicale, donc à travers la lunette là, d'un malade qu'il faut guérir individuellement. Donc, le mouvement est un mouvement de lutte à la médicalisation, puis il s'adresse à tout le monde qui est intéressé ou préoccupé par la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes, particulièrement. Okay. Nous, on s'adresse spécifiquement aux enjeux des jeunes.
Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de problèmes sociaux qui sont vécus par les jeunes?
Par exemple, celui que les gens trouvent le plus facile, ça va être, mettons, un enfant qui va vivre de l'anxiété ou qui va vivre des grandes difficultés à la maison, qui va se retrouver avec un diagnostic de TDAH puis de la médication. Pas parce que l'enfant démontre, tu sais, nomme un besoin, mais bien parce qu'on a un besoin de le contenir.
Mm.
Ou une peine d'amour sera rapidement traitée avec des antidépresseurs chez les filles, majoritairement, c'est des chiffres qu'on voit. Okay. Ou en ce moment, tu sais, c'est le meilleur exemple, on a eu une crise sanitaire. C'est des enjeux, c'est du stress, c'est difficile pour tout le monde.
Ouais, beaucoup d'isolement aussi.
Exactement, les mesures ont eu des impacts. Sauf que en ce moment, la façon dont on l'adresse, c'est en augmentant de façon dramatique la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques chez les jeunes. Et cela non accompagné de services pour aider à gérer les impacts qui se maintiennent ou le stress qui reste en place. Donc, quand on parle de médicaliser un problème social, là, ça peut être autant au niveau individuel de « je vis un deuil puis on me dit que je suis en dépression » que il y a une crise mondiale puis on me donne des anxiolytiques en me disant « mais ouais. ». On le voit aussi avec l'éco-anxiété beaucoup chez les jeunes. T'sais, parce que nous, on a quand même un grand range entre 14 et 35 là, quand même. Mais chez les plus jeunes, l'éco-anxiété, là, ça commence à prendre beaucoup d'espace. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on médicamente.
Pour les personnes qui nous écoutent, que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ce mot-là, est-ce que vous aimeriez nous définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, éco-anxiété? Ouais, Ludovic, tu veux y aller?
Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, l'éco-anxiété, c'est, on peut dire, si on le résume assez simplement, c'est une réaction de stress ou d'anxiété, justement, par rapport au changement climatique, au bouleversement, puis au dérèglement lié à l'environnement. Pour rebondir sur ce que Myriam a dit, en fait, c'est vraiment une palette là, de situations, d'enjeux qui sont vécus par les jeunes. Dans mon cas, j'avais commencé par plus un stress que je vivais dans un travail d'été. Là. Puis très rapidement, là, je peux le dire, là, le stress que je vivais dans un milieu de travail a été traité un peu de façon cavalière par des médicaments contre l'anxiété ou pour la concentration, je ne sais trop. Mais à ce moment-là, rétrospectivement, ce que j'aurais voulu, c'est arrêter juste un peu plus d'écoute.
Ouais.
Puis une prescription sur le coin d'une table là, en 2 minutes. Là.
Bien, je trouve ça vraiment intéressant parce que Ludo vient d'ouvrir une porte quand même sur des enjeux qu'on voit. Il vient de dire « j'ai reçu de la médication pour l'anxiété ou la concentration, je suis pas trop sûr ».
Mmh.
Ça a peut-être passé inaperçu, là, mais dans nos revendications, le respect des droits revient, entre autres, à cause de ce type de choses-là. T'sais. La médicalisation, c'est aussi faire les choses rapidement puis faire les choses pas toujours bien. Puis des jeunes qui savent pas quelle médication ils prennent ou pourquoi, ou c'est quoi le plan avec ça, c'est une grande majorité de ceux qui sont médicamentés actuellement.
Ouais, ben si je peux compléter, peut-être, ben c'est vrai que c'est comme que je me permets de dire que je pense que quand on est jeune, tu sais, peu importe d'où on vient, tu sais, on n'a pas nécessairement toute une conscience, tu sais, je vais le nommer comme ça un peu rudement, mais des rapports, tu sais, de force, tu sais, mettons, qu'ils peuvent avoir,
mm-hmm.
que ce soit dans les milieux de travail, à l'école, dans l'institution plus de psychiatrique ou de soins. Fait que, tu sais, on est comme un peu, on est vulnérable certainement. Puis on croit à ce que les gens en position d'autorité peuvent nous dire. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, je me répète un peu, mais c'est par la suite mon sentiment de colère et d'injustice parce qu'on ne m'a pas expliqué. On m'a juste dit, ben ça va pas bien. Puis c'est vrai que ça allait plus ou moins bien, mais on m'a pas dit comme ça, pourquoi on va régler cette discuter-là avec précisément cette molécule-là ou cette
Mm-hmm. Ben on peut penser à plusieurs témoignages du podcast là, notamment le témoignage de Pascal, c'est exactement ce qu'elle dit là, tu sais, elle avait différents problèmes dans sa vie au niveau de l'anxiété et tout ça, puis on lui a juste prescrit des médicaments sans y expliquer c'était quoi, y expliquer les effets secondaires, ni sans lui donner des alternatives, puis même on se rappelle aussi, elle avait dit que elle s'était fait dire on va essayer des médicaments là jusqu'à temps que ça marche, puis en attendant de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'écouter là, tu sais, c'était comme
Ça me fait penser à au mouvement où on collecte les témoignages puis les paroles, tu sais, fait qu'on a plein de petits bouts de verbatim à différents endroits, puis quand je suis arrivée, tu sais, j'ai essayé vraiment de m'imprégner de tout ça, puis un des petits bouts de témoignages qui m'avait le plus marqué, c'était une conversation ramenée par un jeune qui disait: j'ai vu mon médecin, puis il m'a donné de la médication, puis j'ai dit: mais c'est quoi? Il m'a dit: c'est ta médication. Oui, mais c'est quoi?
Ouais,
c'est
molécule.
Ta médication? OK, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est ta médication. Je le sais, mais c'est quoi la médication?
Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu me donnes?
Ouais,
puis le médecin était là: c'est pas important.
Ben voyons.
C'est
donc
ta médication.
Voyons donc.
Ça m'avait vraiment marqué, tu sais, ça, c'est quasiment une caricature tellement. Tu pourrais faire un sketch d'humour,
ouais,
mais c'était une histoire vécue par un jeune.
Donc là, on a nommé au niveau de la médicalisation des problèmes vécus par les jeunes. On a nommé le fait que les jeunes ne sont pas assez impliqués dans les décisions qui les concernent. Est-ce qu'il y en a d'autres, des revendications, des problématiques que vous pointez?
Bien, en fait, la médicalisation, c'est le chapeau, hein, qui englobe. On lutte à la médicalisation. Pour nous, nos revendications sont des demandes ou en tout cas des recommandations, des choses qu'on pense qui devraient être mises en place pour diminuer non seulement l'existence du phénomène de la médicalisation, mais aussi ses impacts. Donc, on a 4 revendications. La première, c'est que tous les jeunes et leurs proches aient accès gratuitement à des services d'aide et de soutien psychosociaux et alternatifs à la médication psychiatrique, et que l'accès à ces services-là ne soit pas conditionnel à un diagnostic. Ça a l'air long, là, comme revendication. Ils sont tous un peu longues, tu sais, parce que c'est tout le temps un petit peu complexe. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que personne ne va être surpris que ça prend plus de services et plus d'accès. Mais aussi que ce ne soit pas qu'un docteur, qu'une médication, qu'un service ponctuel, puis après ça, débrouille-toi.
Ouais.
D'autres types de services. Ça va même jusqu'à soutenir le financement des organisations communautaires qui ont des approches alternatives en santé mentale, t'sais, cette revendication-là. Parce que ça prend plusieurs options pour que tous les gens qui vivent des enjeux trouvent des solutions qui leur conviennent. Pourquoi on parle sans diagnostic? C'est parce que, si tu dois mettre un diagnostic sur tout ce qui est le cas en ce moment, pour avoir accès à des services publics ou des adaptations, tu dois avoir des diagnostics formels. Ben, comment tu veux ne pas médicaliser tous les enjeux si tu dois avoir un diagnostic pour avoir accès à quoi que ce soit comme soutien externe? Donc, non seulement ça, puis aussi, ben, ça génère de la, on va le dire un grand mot, là, de la stigmatisation, ou ça marginalise, ou ça exclut, ou ça l'étiquette les gens qui reçoivent les diagnostics, soit pour eux-mêmes ou pour le regard extérieur, la crédibilité face aux professionnels de la santé et tout ça. Donc, il y a plus d'effets négatifs que positifs à vouloir à tout prix mettre un diagnostic sur des enjeux. Ça, c'est pas pour dire que tout diagnostic n'est pas bon ou pertinent. Il y a des gens pour qui c'est très important de l'avoir, puis il y a des enjeux que c'est facilitant, mais c'est pas tout blanc ou noir.
Ouais.
La deuxième revendication qu'on a, c'est que l'expertise des jeunes soit reconnue par leur participation égalitaire sur toutes les questions qui les concernent, notamment dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et plans d'action. Ce que ça veut dire, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est que dans tous les traitements, dans tous les suivis, dans toutes les interactions que les jeunes vivent avec le personnel médical, avec les professeurs, avec les parents, on les place jamais au centre, ou très rarement, je dis jamais, mais...
Mm-hmm.
Les place très rarement au centre de leur propre enjeu. On leur demande pas le sens de leurs difficultés. On n'évalue pas avec eux les réels besoins. On leur donne des solutions.
On leur impose des solutions.
On leur impose des plans d'action. On leur impose de la médication sans aller valider. Puis même les diagnostics. Les diagnostics sont tous basés presque sur les symptômes et très peu sur les interprétations ou les perceptions de ce qu'on vit. Donc, les jeunes ne sont pas placés du tout au cœur de leur, la compréhension de leurs problèmes ou de la, ou du traitement. L'autre aspect à ça, c'est que quand on fait des politiques publiques, quand on fait des changements dans les services, quand on met en place des programmes au sein des écoles, dans l'hôpital, au sein de la santé mentale, peu importe, on n'implique pas les jeunes. Déjà, les citoyens sont rarement impliqués, mais les jeunes encore moins que les adultes dans la... même l'identification des enjeux majeurs, la compréhension des problèmes plus larges, la mise en place de solutions, ils sont pas là. Ils sont pas consultés. On valide pas avec eux que c'est pertinent. On va pas vérifier si c'est les bonnes solutions. Puis là, tu sais, au niveau individuel, mais aussi au niveau plus large. Donc, ça, c'était notre revendication numéro 2, qu'on change ça, puis qu'on implique les jeunes à tous les niveaux. C'est une des raisons aussi pourquoi le mouvement, on a des jeunes sur notre comité de coordination, puis on a des jeunes qui vivent ces enjeux-là dans toutes les étapes de notre processus décisionnel, puis on essaie toujours de faire de l'idéation collective, de la décision collective, la mise en place de projets collectifs avec des jeunes qui vivent ces enjeux-là.
Ben oui, pour que ce soit cohérent avec votre revendication.
Exactement, puis on se place pas en expert, tu sais. Ces jeunes-là sont les experts de qu'est-ce qu'ils ont vécu. La compréhension, puis c'est, quand t'en as un, tu comprends des choses, mais quand t'en as 300, tu te rends compte que ils sont capables de le faire, le portrait des enjeux, là. Qui comprend mieux qu'est-ce qui se passe que les gens qui l'ont vécu? Notre troisième revendication, c'est que l'exercice des droits soit respecté, donc que l'exercice du droit à l'information, du droit à la participation au traitement, du droit à l'accompagnement et du droit au consentement des soins libres et éclairés soient respectés et garantis pour tous les traitements liés à la santé mentale.
Je dirais que c'est principalement cette revendication-là dans laquelle je me suis reconnu puis que j'ai beaucoup appris là, et qui me sert encore et qui va me servir encore. Très concrètement, par exemple, la possibilité de poser la question, donc, est-ce que je peux arrêter la médication avec mon médecin? Juste parce que j'avais posé la question et que j'avais confiance en mes moyens, cette demande-là a été acceptée. T'sais. Mais quelques mois plus tard, j'ai eu l'apparition d'autres difficultés qui fait que j'ai dû être réhospitalisé. Mais après ça, j'ai compris un peu mieux donc c'était quoi ma situation. Je me sentais comme plus équipé après ça pour être une partie prenante de mes soins parce que c'était pas comme imposé... J'avais compris comme que si je voulais aller mieux, mais j'avais certains gestes à poser, mais au moins, c'était plus... je me sentais certainement plus autonome dans cette prise de décision-là.
Cette revendication-là, elle est là justement parce que les droits, ils existent. Ils sont dans la politique en santé mentale qu'on est censé vivre et respecter activement dans les soins en santé mentale. L'enjeu n'est pas seulement que les gens ne les connaissent pas, ce qui est un enjeu quand même, mais c'est aussi que dans beaucoup de cas, ne sont pas respectés par le personnel médical. Donc, non seulement ils seront rarement respectés volontairement de la part du personnel médical, ce ne seront pas eux qui vont offrir dans beaucoup de cas, de dire, tu sais, tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit de choisir. Est-ce que tu veux continuer ton traitement? Est-ce qu'il y avait d'autres options qui t'intéresseraient? Tiens, voici, je vais t'expliquer les choses. Il y en a des professionnels qui sont incroyables. Mais majoritairement, non seulement c'est pas le cas, mais en plus, il y en a des professionnels qui vont refuser de répondre. Refuser que la personne soit accompagnée. Dire que la personne, si elle questionne sa médication, elle fait un refus de traitement et donc de mauvaise foi et lui demander de quitter sans continuer d'offrir des soins ou des alternatives. C'est des choses qu'on entend quand même beaucoup. Tu sais, un exemple vraiment, vraiment très simple. La majorité des traitements, des plans de traitement, des médications prescrites n'ont pas de stratégie de fin. Incluant là, les anxiolytiques et les antidépresseurs qui sont donnés à des adolescents. Puis on va dire, on se reverra dans 3 mois pour faire un suivi. Mais s'il n'y a pas un enjeu majeur, comme les effets secondaires, c'est vraiment pas bon ou peu importe, puis la personne est comme, je dois changer. Après, on dit, bon, ben good,
Non, c'est comme si tu allais être pognée avec ça toute ta vie.
Toute ta vie. Ou à moins que toi, tu reviennes et tu te dises, ben là, j'aimerais arrêter.
Okay.
Parfois, avec un bon professionnel, ça te comme, OK, mais comment qu'on fait? Mm-hmm. Je vais t'accompagner, mais dans beaucoup de cas, ça va être, ben non. On peut le changer si tu veux, mais sans avoir de stratégie de mise en place pour se rendre à une fin.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que quand on parle de consentement libre et éclairé ou du droit à l'information, comment ça peut être respecté si dans nos pratiques, c'est même pas considéré le parcours, la fin, la ouais. stratégie à plus long terme?
Tout à fait.
Quand t'as 16 ans, puis tu reçois un antidépresseur, puis la réponse, c'est bien, tant que t'en as besoin, mais il y a pas d'évaluation de fait, il y a pas de suivi d'offert, il y a pas... Fait que c'est quand est-ce que t'en as plus besoin? Nobody knows. Un jeune qui veut arrêter un traitement, là, une médication ou qui veut changer la stratégie, dans beaucoup de cas, ça va être extrêmement difficile. Il y a peu de professionnels qui vont être à l'écoute puis accompagner le jeune dans ça, sans considérer que c'est des refus de traitement ou sans insister sur leur expertise. Mais quand on sait que la prescription des médicaments, ça suit des modes et que quand tu regardes les statistiques de l'assurance maladie au Québec, tu peux voir... les périodes que certains antidépresseurs ou certains anxiolytiques sont plus à la mode. Tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent justifier une mode. Tu sais, c'est un nouveau médicament, on pense qu'il marche mieux, il y a moins d'effets secondaires, les médecins se parlent, les patients sont comme « Ah, c'est vraiment cool! » Il y a comme un engouement aussi. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui vont donner des échantillons gratuits. Comment on peut être certain, tu sais, que le bon traitement, la bonne pilule est offerte à la bonne personne dans le bon contexte quand on pose très peu de questions puis on prescrit les choses de façon générale?
Mm-hmm.
Ça, c'est l'antidépresseur qui marche cette année.
J'ai envie de compléter encore une fois. J'ai dû prendre 4 médicaments différents, tu sais, à la première fois que j'ai eu des difficultés avec ma santé mentale, tu sais. C'est quand même fort, là, prendre 4 médicaments différents. En plus, je sais même pas c'est quoi le temps, leur effet. C'est-tu de l'anxiété, c'est-tu de la concentration, on mélange des deux, tout ça. C'était vraiment comme... C'était quasiment comme prendre des bonbons.
Avec beaucoup d'effets secondaires.
Ouais, c'est ça.
Je pense que un des enjeux aussi, tu sais, quand on parle de mode, quand on parle de pas trop évaluer quel médicament on donne, c'est que beaucoup des prescriptions dans les dernières années sont données par des médecins généralistes, des médecins de famille, des médecins sans rendez-vous. C'est pas leur zone d'expertise, tu sais. Mais la réalité, c'est que il y a tellement pas d'accès aux psychiatres, les attentes aux pédopsychiatres, les attentes sont suffisamment longues que on se retrouve avec vraiment beaucoup de médecins généralistes qui vont prescrire. Il y en a qui les connaissent mieux, mais dans beaucoup de cas, on donne ce qu'on pense qui est bon, puis advienne que pourra.
C'est incroyable ce que tu nommes, Myriam, parce que c'est vraiment... J'ai comme des flashbacks, puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Dans mon cas, je pense que j'avais... C'est un médecin ou une médecin, peu importe, généraliste qui m'a prescrit comme ces médicaments-là sur le coin d'une table, comme je disais, là. Peut-être que t'es pas nécessairement mal intentionné, mais c'est, encore une fois, je pense, dans tout ce qu'on dit, c'est pas nécessairement de pointer des individus ou des professionnels, tout ça, c'est plus comme une... Je pense que c'est plus une culture, tu sais, ou des problèmes de société, tu sais, plus généraux, là. J'ai eu la chance quand même de tomber sur une bonne psychiatre. Je lui fais vraiment confiance, mais tu sais, je sais pas à quel point c'est répandu, mais en tout cas, le point que j'amenais, c'était de dire qu'en effet... Chaque corps de métier comme en santé peut pas tout faire. Il faut vraiment qu'il y ait plus de collaboration. J'ai pas la recette magique, mais c'est certainement un point important là, à aborder. Là.
Tu fais un lien quand tu dis que t'as pas la recette magique à notre dernière revendication, qui est que le gouvernement mette en place immédiatement une commission sur la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Parce que le point de vue du mouvement, c'est trop large. C'est comme Ludo le nommait, c'est un enjeu social, c'est un enjeu global, c'est un enjeu de façon de faire puis de culture, de traitement puis de fonctionnement. Il faut qu'on s'assoie puis qu'on en parle avec les citoyens, avec les gens qui le vivent, avec des experts, avec des médecins qui le vivent parce que, tu sais, ce qu'on entend aussi, là, parce que tu dis qu'il ne faut pas pointer les gens, Ludo, puis c'est super pertinent, parce que ce qu'on entend, c'est que les médecins, ils font leur possible aussi, tu sais. Quand t'as une jeune fille de 16 ans dans ton bureau qui pleure en disant « je veux mourir », puis que c'est un an d'attente pour avoir des services, puis ils n'ont pas les moyens d'avoir des services au privé, ou peu importe, quand il n'y a pas d'alternatives ou sont difficiles à obtenir, le médecin ne veut pas juste se dire aussi « bon, ben tant pis ».
Ouais. Bye, j'ai pas l'expertise.
J'ai pas l'expertise, ouais. Alors va, bonne fin de journée. Donc, tu sais, les professionnels se retrouvent aussi coincés dans cette dynamique-là, dans... qui fait qu'ils ont pas beaucoup de temps à accorder à tous les patients, puis ils ont pas nécessairement l'expertise, mais ils peuvent pas juste renvoyer le monde chez eux, parce qu'il y a pas d'autres... Ils font des références, mais en ce moment, les listes d'attente sont super longues, les délais sont super longs pour les services, il y a très peu d'alternatives qui sont couvertes par le gouvernement. Mm-hmm. Quand tu veux de l'alternative, il faut que tu le finances beaucoup au privé, tu sais, ou...
ou dans le communautaire, qui est sous-financé.
Qui est sous-financé, puis qui est limité dans qu'est-ce qu'il peut offrir, tu sais.
J'ai envie de dire aussi que tout ce qu'on nomme ici, le problème de la médicalisation, c'est qu'on ne s'attaque pas à la racine du problème, ou à des causes plus grandes, des causes sociales.
Puis tantôt, on a parlé, là, on a donné des exemples. On avait des exemples soit très individuels de la médicalisation ou des trucs vraiment très larges comme l'éco-anxiété ou la crise sanitaire. Mais Ludo met la main aussi, quand on parle de problèmes sociaux, on parle aussi de si tu n'as pas de logement... Parce qu'il y a une crise du logement terrible au Québec, ben ça se peut que tu sois stressé. Nous, mettons, dans les jeunes qui viennent nous parler, beaucoup qui s'impliquent, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont vécu des passages dans la rue ou qui vivent encore des passages, des périodes d'itinérance ou sans domicile fixe.
Ou dans des centres jeunesse.
Ou dans des centres jeunesse ou dans des organismes communautaires. Mais tu sais, quand tu n'es pas sûr de comment tu vas remplir tes besoins de base, dur de ne pas faire d'anxiété. Est-ce que ton anxiété, elle est réellement maladive?
Comme si c'est un problème biologique de cerveau. Là,
mais me semble que c'est un problème biologique de survie. Tant que tu seras pas en sécurité et tes besoins de base ne seront pas remplis, on peut bien te donner un anxiolytique à prendre tous les matins, là. Mais comme un jeune qui avait... On avait déjà eu une citation d'un jeune qui nous avait dit « C'est bien beau, là, me donner des antidépresseurs, mais comme ça me remplit pas l'estomac. » C'est pour ça, tu sais, quand on parle d'une commission puis d'une discussion sociale plus large, puis on pense qu'une partie de cette responsabilité-là revient à nos gouvernements aussi parce que c'est beaucoup le système public en ce moment, tu sais, qui lead tout ça. Les services en santé mentale... la lutte à la pauvreté, ces choses-là. Donc, ils doivent prendre la responsabilité, notre gouvernement doit prendre la responsabilité d'ouvrir cette conversation-là, puis cette discussion-là, puis de revoir comment on traite les gens, puis comment on traite notre société, puis comment on pourrait mettre en place des choses qui fonctionnent, puis des changements qui ont un impact. Mm-hmm. Parce que oui, ça prend plus de services, mais c'est pas vrai que rajouter 70 psychothérapeutes dans le système actuel, ça va régler la question de la médicalisation. On aura 9 mois d'attente au lieu de 11. Là, où
C'est mieux que rien, mais ça ne réglera pas les problèmes systémiques. Là, t'sais.
C'est important parce qu'on ne peut pas juste faire fi des gens qui vivent de la détresse là, maintenant. Ouais. Il faut garder en tête que ces jeunes-là, ces gens-là, ces personnes-là ont besoin des services maintenant, ont besoin de soutien maintenant. Mm-hmm. Mais si on est toujours que dans le maintenant, alors que beaucoup, beaucoup de gens d'organisations, de groupes s'entendent que les enjeux, ils sont systémiques, ils sont plus larges, puis qu'il faut revoir nos fonctionnements, mais il faut le réfléchir.
Pour porter ces 4 revendications-là, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les moyens d'action que vous privilégiez au mouvement jeune?
Bien, d'abord, on essaie d'être cohérent avec nos propres revendications. Au centre de toutes les autres choses, il y a de placer les jeunes, leurs paroles, leur interprétation, leur savoir expérientiel au cœur de notre réflexion, de nos actions, de nos espaces décisionnels, le plus possible. Puis, on se lance l'année prochaine dans une grande campagne d'éducation populaire. On veut mettre le mot et l'enjeu de la médicalisation sur la map sociale, sur la map de mon voisin de coin de la rue et ma tante au party de Noël, et pas juste au sein d'un petit groupe comme nous, ben on est quand même un grand groupe, mais qui travaille sur cet enjeu-là.
Il y a combien de jeunes impliqués dans le mouvement jeune?
Si tu parles de la déclaration commune, si tu parles des jeunes qui viennent à nos activités, les jeunes qui remplissent les sondages, on est dans les milliers.
Là. Oh my God!
Mais il n'y a pas que des jeunes, mais on a près de 2000 signataires. Fait que c'est soit des jeunes, soit des citoyens ou des organisations sur notre déclaration commune. On a une 70 de jeunes qui viennent en général à nos rencontres nationales.
Okay. Puis cette déclaration commune-là, est-ce toujours, on peut toujours la signer?
Oui, on la trouve sur notre site Internet. On peut la signer en ligne et puis s'ajouter là, à tous les gens qui supportent là, notre lutte puis nos revendications. Puis n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, juste nous envoyer un petit message là, sur le Messenger de la page Facebook pour l'instant ou par courriel. On va vous appeler puis on va se parler puis on va vous embarquer là. N'importe
c'est
qui ben, veut
c'est
suivre.
Après le podcast, vous allez recevoir 500 messages. Vous allez être comme « Oh non! »
500 messages, ça serait incroyable. Mais aussi, si quelqu'un a envie de s'impliquer de façon qui demande moins de temps ou qui est moins un petit peu investi que des comités de travail ou des activités ponctuelles, on est en train d'essayer de faire vivre nos réseaux sociaux donc auprès des jeunes. Donc, notre Instagram, le TikTok qu'on va mettre en place, tout ça. Fait que si les gens veulent aller partager, aller faire des petits cœurs sur nos contenus ou commenter. Dans les activités qui s'en viennent, là, on a aussi, pour notre campagne d'éducation populaire, là, on veut faire des ateliers ponctuels. On voudrait faire des ateliers là, de slam, de création de mimes, d'enregistrement peut-être d'une chanson. Des choses plus...
comme
artistiques pour aller... pour aller parler de ces enjeux-là de façon le fun, puis pour les exprimer de façon parfois drôle, puis parfois vraiment belle et créative. Donc, on va faire appel à des groupes, puis on va ouvrir des activités ponctuelles dans l'année qui s'en vient, là, à partir de l'été, pour filmer des capsules, pour faire des ateliers. Si vous vous inscrivez sur nos réseaux, là, vous allez pouvoir avoir accès à ces invitations-là aussi.
Tantôt, vous disiez que les droits des jeunes dans le système de santé mentale sont souvent pas respectés, puis c'est d'ailleurs ce qu'on constate dans les témoignages qu'on entend dans le podcast. D'après vous, est-ce qu'il y a certains jeunes qui sont plus victimes de ce non-respect-là de leurs droits ou plus vulnérables à ça?
Nous, on n'a pas développé, tu sais, une expertise complète là-dessus parce que on prend des témoignages globaux puis on les collectivise, mais on a quand même entendu plusieurs affaires qui indiquent qu'il y a une variance entre comment certains jeunes sont traités. Notamment, dépendant des diagnostics qui sont donnés. T'sais, un exemple, c'est les jeunes filles qui vont avoir un trouble de personnalité limite. C'est terminer la crédibilité en lien avec des besoins, des demandes de soins, de suivi. Donc, ça, tout devient une demande d'attention qu'il ne faut pas indulger.
Ça peut même aller jusqu'à des dénonciations d'agression puis qu'on ne croit pas la
qu'on
personne.
Croit pas. Ouais. Une fois, là, dans mon ancienne vie comme intervenante dans une auberge, j'avais une jeune en appartement supervisé qui faisait de l'automutilation puis qui allait très bien depuis un bon bout. Elle était avec nous depuis 2 ans puis qui a eu une période plus difficile. Puis un soir, je suis allée avec elle à l'hôpital parce que je me sentais pas à l'aise à retourner chez moi. Comme son état avait crashé suffisamment que j'étais pas confortable à la laisser toute seule. Ses idéations suicidaires me paraissaient incroyablement pointues et inquiétantes. Okay. Et donc, je l'ai accompagnée, on a attendu, on a vu un médecin qui a dit « Si tu voulais vraiment mourir, tu ferais ça plus creux que ça. » Je sais même pas comment réagir à ça parce que... puis il nous a renvoyé avec 2 calmants. Un pour le soir, un pour le matin, en échantillon. Puis, salut. Je sais que c'est gros, là, puis que toutes les interactions se passent pas comme ça, mais ça, c'est quand même un exemple, moi, qui m'avait frappé grandement.
Ben oui, puis une fois, c'est une fois de trop.
C'est des choses qu'on entend souvent là, chez les jeunes femmes qui ont un trouble de personnalité limite. Là. Un coup qu'ils ont le diagnostic, ils parviennent plus à se faire croire puis écouter nulle part. Ou les jeunes qui ont un TDAH envers qui le système d'éducation, les profs parfois ou d'autres personnes vont être plus intransigeants plutôt que plus accommodants. Donc, une fois que tu as le diagnostic, chaque fois que tu as une émotion ou que tu déranges ou que c'est parce que tu es TDAH, pas parce que tes parents se séparent, pas parce que tu t'es fait intimider par un autre de la classe ce matin, pas parce que... Non, non, toi, t'es le TDAH, là, fait comme, gère-toi. On a des jeunes, mettons, qui ont vécu des situations d'itinérance puis qui vont nous dire qu'ils se font souvent contrôler, mettons, par la police. Puis qu'une fois qu'il y a, il y a quelque chose, qu'il y a un problème, c'est écrit dans leur dossier qu'ils ont des enjeux de santé mentale. Puis au lieu que ce soit un facteur qui aide à guider une intervention plus adéquate, ça tend à faire l'effet contraire, là, puis arrête de respecter la personne puis de tenir compte de ce qu'elle essaie de répondre ou d'expliquer ou de peu importe. Il y a aussi les jeunes qui consomment, en fait. Ça aussi, on n'en a pas parlé puisque c'est pas nécessairement notre sujet d'expertise, mais dans beaucoup de cas, tu ne peux pas recevoir de suivi ou traitement si ta consommation, elle est encore active. Donc, tu dois arrêter par toi-même à consommer sans aide. Puis une fois que ça fait, je me souviens plus, c'est 2 ou 3 mois que tu consommes plus, là, on peut... te prescrire de la médication, faire un suivi. Ça a 2 impacts. Là. Celui où est-ce qu'on laisse les gens qui veulent arrêter de consommer complètement tout seuls, alors que, tu sais, quand on parle que la médication, ça peut être une béquille qui t'aide à aller mieux, ce serait quand même un contexte où est-ce que faire la transition entre les effets sur ton cerveau de la consommation quotidienne et une vie saine avec d'autres mécanismes, ça serait un bon moment, mettons, pour une béquille, il me semble. Par contre, c'est ça, on veut pas conjuguer les effets, là. Puis l'autre chose, c'est que ça fait qu'on a beaucoup de jeunes qui vont mentir. Mais là, quand tu mens sur ta consommation puis que tu reçois quand même de la médication, là c'est sûr que tu en as des effets.
Ouais, il y a des interactions.
Des interactions entre la conso et la médication. Parce que si ton psychiatre, par exemple, était au courant puis prenait ça en compte dans l'évaluation puis dans ce qu'il choisit de te donner, puis il te le dit quand tu peux les mixer puis quand tu peux pas, puis quoi faire si t'as consommé une journée avec ta médic, tu sais.
Ouais, ben c'est ça j'allais si dire. C'est comme si c'était un ou l'autre, mais il y aurait pas possibilité de dire, bon, ben on le sait, mettons que selon toi, le type de substance que tu consommes avec telle fréquence, ben ça pourrait pas fitter avec tel médicament, mais avec tel autre médicament, ça serait plus sécuritaire. Tu sais, il pourrait pas avoir un discours comme ça plutôt que de dire juste comme « Ah, ben tu consommes, fait arrête de consommer, puis après ça, on va pouvoir t'aider. »
Ben non seulement...
Tu sais, je sais pas trop.
Non seulement il pourrait, mais dans les témoignages qu'on a, il y en a des rares psychiatres ou médecins qui vont avoir cette approche-là, puis c'est toujours ramené comme un incroyable bienfait. Tu sais, ça va être des témoignages qui vont être positifs quand on demande aux jeunes qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a fait du bien, qu'est-ce qui devrait être fait plus souvent. Ce genre de choses-là ressort, tu sais. Moi, il y en a un qui m'a cru, puis qui m'a écouté, puis j'ai dit la vérité, puis on a travaillé ensemble.
Ouais, puis d'accueillir aussi sans préjugés, là, quand il y a un jeune qui dit qu'il consomme, c'est de pas prendre pour acquis que c'est une grosse consommation problématique. Ça peut être aussi récréatif.
Dans les caractéristiques différentes, là, on a aussi des témoignages là, qui nous ramènent que si tu es une personne non-binaire et ou trans, il y a vraiment beaucoup d'enjeux en matière de respect et de crédibilité dans le système de santé en général, mais dans le système de santé mentale aussi, la façon dont on va traiter tes réactions, tes interprétations, ta compréhension de ton enjeu, ça va varier grandement d'un professionnel à l'autre, puis ça sera pas toujours... dans le respect du genre. Quand on parle à des jeunes qui ont passé, mettons, par la DPJ ou certains milieux scolaires aussi, qui vivent des enjeux parce qu'on refuse de reconnaître le genre auquel ils s'identifient, on continue de les diagnostiquer avec des enjeux individuels d'anxiété, de dépression, de difficultés, au lieu de se mettre derrière eux puis de monter aux barricades pour dire « c'est sûr ». Que si t'es mégenré tous les jours dans le milieu où tu vis, centre jeunesse, famille, à certaines écoles, tu vas être déprimé.
Ben oui.
Puis tu vas être anxieux ou tu vas être... Mais on va te donner de la médication au lieu de respecter ton lait. On va régler une partie du problème, là. Je pense qu'être jeune et avoir un problème de santé mentale, un diagnostic, oui, il y a une variété... mais ça vient quasiment automatiquement avec une perte de de crédibilité, puis d'écoute, puis de respect.
C'est ce qui conclut cet épisode de Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Charlotte pour son témoignage, Myriam et Ludovic du mouvement Jeunes et santé mentale pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode...
En fait, à chaque fois que j'avais une rencontre avec lui, je rentrais chez nous puis j'étais toute bouleversée. Je faisais tout le temps une crise comme d'anxiété après l'avoir vu. Puis dans le fond, une des choses qui m'a le plus blessée dans les rencontres que j'ai eues avec lui, c'est quand dans le fond j'ai voulu parler de mon identité de genre. Ben dans le fond, il m'a comme un peu invalidée là-dedans à cause justement de mon trouble de personnalité, puis en me disant que tu sais. Je me souviens plus trop comment il avait lancé ça, mais c'était un peu dans le fond un des traits de trouble de personnalité. Dans le fond, c'est que on est toujours en questionnement sur notre identité ou sur notre personnalité, qui on est, qu'est-ce okay. qu'on aime, tout ça. Mais là, c'était vraiment, pour moi, c'était sérieux. Puis c'est là, quand je suis arrivée avec ça, j'avais l'impression, c'est dans le fond qu'il me prenait un peu comme pour un clown.